avec vous un temps d'antenne animé par Cathy Vanel qui aime se balader et vous rencontrer.
Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire?
Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Gandhi disait, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie.
Bonjour à toutes et à tous. C'est par cet extrait de la bande-annonce du documentaire Demain que j'ai choisi de vous présenter le sujet d'aujourd'hui qui porte sur la permaculture. La permaculture, un terme à la mode dont le vrai sens échappe à bon nombre d'entre nous, comme va nous l'expliquer mon invité d'aujourd'hui, Martine Delhomo. Bonjour Martine.
Bonjour.
Alors, vous habitez à Villon-Versur et vous êtes conseillère en agroécologie pour les jardins naturels en milieu urbain et périurbain. C'est bien ça?
C'est ça, ce qui m'a permis de trouver le titre de mon activité, CARAB, qui est un acronyme en fait.
D'accord. Alors, j'ai eu le plaisir de vous recevoir l'année dernière pour évoquer un pays lointain, le Kirghizistan. Aujourd'hui, c'est de permaculture dont nous allons parler ensemble. Est-ce que l'on peut expliquer ce qu'est la permaculture en reprenant les termes de la bande-annonce du documentaire Demain ? Je cite « Inventer un autre monde qui respecte la nature et les humains, d'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation ». De démocratie.
C'est une définition possible, oui.
Parmi d'autres.
Il y a beaucoup de définitions de la permaculture. Lorsque je propose des initiations à la permaculture, je propose aux stagiaires de réfléchir sur les deux mots qui composent ce terme, permaculture. Et perma, ça renvoie à toutes sortes d'autres mots, d'autres concepts. Permanent, cycle, mais aussi héritage, mais aussi tradition, mais aussi la permanence. Donc quelque chose de durable. Et puis bien d'autres choses. Et le côté culture, bien sûr on pense à l'agriculture, mais pas seulement, parce que le mot culture renvoie aussi à civilisation, c'est-à-dire au champ social, au champ éducatif et à tout ce qui compose finalement une société humaine.
Donc, il ne faut pas réduire la permaculture à une nouvelle approche écologique du jardinage. Ça, c'est réducteur.
Tout à fait. Alors, si souvent la permaculture est assimilée à un ensemble de recettes écologiques, alternatives, innovantes pour produire des légumes dans son jardin, c'est parce que peut-être produire une partie de son alimentation en jardinant est une des premières écoles de l'autonomie. Parce qu'au final, la permaculture, ça vous enseigne aussi comment être autonome et pas en autarcie. Ça, j'insiste aussi là-dessus.
La permaculture recouvre tous les domaines de la vie et l'on est en permaculture à partir du moment où on applique les principes qui lui sont propres. Ces principes sont nombreux. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Alors, un qui vient assez vite à l'esprit et qui est facile aussi de traduire dans des actes concrets, c'est le recyclage. recycler. Alors, recycler, bien sûr, on pense tout de suite à ces déchets ménagers, à tout ce qui est organique, faire un compost. Mais c'est recycler aussi les biens de consommation. Quand on achète une voiture, il faut déjà penser à qu'est-ce qu'elle va devenir quand on n'en aura plus besoin. Est-ce qu'on pourra la revendre? Est-ce qu'on pourra la désosser pour faire d'autres objets, etc., etc. Par exemple, les bouteilles plastiques. Ça, c'est un sujet d'actualité. Les mers de plastique qui sont en train de polluer inexorablement nos océans, ça doit nous faire réfléchir et donc induire dans la société d'autres pratiques.
D'autres principes de la permaculture, alors observer, être patient, ne pas agir pour ne pas nuire.
Ça suppose qu'on prenne du recul, qu'on fasse un pas de côté avant d'agir. Alors c'est vrai aussi que d'un autre côté, un autre des principes de la permaculture, c'est aussi expérimenter. Mais expérimenter et observer en conscience. Quand on observe quelque chose, il s'agit de comprendre ce qu'on observe et de pouvoir le traduire ensuite en technique, en action. Et la science est un outil qui nous permet justement de savoir, interpréter ce que l'on observe et trouver des techniques qui seront alternatives à ce que l'on a toujours fait ou alternatives surtout à l'utilisation d'énergie fossile. Alors en agriculture, on pense tout de suite au tracteur par exemple. Est-ce qu'on peut se passer d'un tracteur pour produire? Parce qu'un tracteur, c'est des ressources minières pour le fabriquer et puis pour le faire fonctionner, c'est du pétrole. Donc aujourd'hui, en permaculture, on voit de plus en plus de maraîchers notamment, mais aussi toutes sortes d'autres producteurs du champ agricole qui réinvestissent la traction animale. Et ce n'est pas forcément un retour en arrière. Parce que lorsqu'on réinvestit un champ technique traditionnel, on le réinvente en l'éclairant avec les dernières découvertes scientifiques. Donc maintenant, l'éthologie permet de mieux comprendre comment fonctionne un animal. Donc en traction animale, maintenant, plutôt que de contraindre le cheval ou l'âne à obéir, on va en faire un partenaire. Voilà, c'est un des exemples qui me vient présent à l'esprit pour montrer la différence qu'il y a entre le retour en arrière. Parce que oui, retourner à labourer avec des vaches, c'est retourner au 19e siècle. Non, parce qu'aujourd'hui, on a des données scientifiques, on a l'expérience de tous ceux qui ont travaillé sur le sujet qui nous permettent de réinventer.
L'interdépendance, l'étude donc des liens, tout ça, c'est également, ce sont des principes de la permaculture.
Oui, je dirais même que c'est fondamental, parce que souvent, moi, je présente la permaculture comme une discipline du lien. Lorsqu'on a fait quelques études d'écologie ou qu'on parle par exemple avec des écologues ou même des amateurs très éclairés comme ceux de la FRAPNA par exemple, si vous faites des sorties avec la FRAPNA, vous allez comprendre la complexité d'un écosystème. Et c'est grâce à ces observations et donc ces études sur la complexité du vivant qu'on se rend compte des liens qui sont nombreux et incontournables pour qu'un système fonctionne. Eh bien, lorsque on imagine, on conçoit un agroécosystème ou même un système productif style entreprise par les principes de la permaculture, on va s'attacher à étudier tous les liens qu'il va y avoir entre les différents éléments, soit de cet agroécosystème, soit de ce système productif comme une entreprise. Donc, ce sont les liens qui sont fondamentaux.
Et l'imitation aussi de la nature ?
Alors, on parle beaucoup de biomimétisme en permaculture. C'est une source intarissable d'inspiration. Et quand on prend le temps d'observer ne serait-ce que ce qui se passe dans son propre petit potager, par exemple, ou en lisière de forêt, c'est très riche une lisière de forêt, et qu'on a quelques connaissances ou qu'on peut se référer à des personnes spécialistes, par exemple, du sujet, on s'aperçoit, on découvre des choses, on découvre des liens, on découvre des comportements et on découvre la richesse de ces liens. Et c'est cette nature qui inspire en général des systèmes, de nouveaux systèmes, agro-systèmes par exemple, jardins, fermes, mais aussi en mécanique. parce que l'étude des oiseaux, l'étude des requins, par exemple, a inspiré des fuselages pour les avions ou pour des voitures.
On cite beaucoup la nature, mais en fait, on peut très bien être en permaculture et habiter en ville.
Absolument. Je dirais même que la permaculture a été popularisée grâce au milieu urbain, grâce notamment aux générations des 30-40 ans qui ont beaucoup voyagé, plus que ma génération, hein, parce que moi, maintenant, ça y est, je suis dans la soixantaine. Mais les trentenaires, les quadras, eh bien, ils ont fait des études qui leur ont permis, par exemple, d'aller un peu finir leurs études en Europe, mais aussi dans les pays anglo-saxons. Et la permaculture a été propagée depuis l'Australie dans tous les pays anglophones, notamment. Et ce sont ces jeunes générations qui sont des urbains, qui sont souvent d'ailleurs des gens qui travaillent dans des grandes entreprises, des jeunes qui ont fait des études assez poussées, qui ont rapporté ces concepts et qui les ont popularisés. Le recyclage, il est beaucoup plus facile, entre guillemets, quand on est en zone urbaine, parce qu'il y a une abondance de déchets.
Les principes de la permaculture s'appliquent dans tous les domaines de la vie, l'éducation, la santé, l'environnement, la finance, l'économie. Un des domaines qui vous tient particulièrement à cœur, c'est l'habitat.
Alors, construire sa maison ou la concevoir selon des principes écologiques, c'est une façon aussi d'atteindre l'autonomie. De convoquer des nouvelles techniques, de réinvestir des techniques aussi traditionnelles, de se poser la question du recyclage après notre vie. Cette maison, il faut qu'elle soit réappropriable par d'autres générations, ou si elle doit être détruite, que les matériaux qui ont permis de la construire soient réemployables. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et puis parce que une personne, un couple, un groupe de personnes va volontiers investir dans l'habitat, peut-être plus que dans son jardin.
La permaculture vise l'autonomie et, plus surprenant, l'abondance. Donc, être en permaculture, ce n'est pas forcément vivre chichement.
Alors, c'est pas seulement et surtout pas, je dirais, laisser la nature faire. Parce que j'ai rencontré des stagiaires, j'ai rencontré plein de gens autour de cette notion de la permaculture qui me disent « mais moi, je laisse faire la nature dans mon jardin. Les ronces, de toute façon, c'est hyper utile parce que c'est mellifère, parce que... » Bien, oui, soit. Laisser faire la nature, c'est être écologique. Mais pour autant, ce jardin naturel, il va peu produire d'aliments qui seront susceptibles de faire vivre son propriétaire ou celui qui est au centre de cet écosystème. C'est générer l'abondance, le projet. Parce que si vous créez suffisamment d'aliments, par exemple, vous produisez suffisamment d'aliments dans ce jardin pour vous nourrir, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi produire suffisamment pour que cet écosystème soit auto-fertile, c'est-à-dire que vous produisiez suffisamment, par exemple, de biomasse. Alors, ça peut être des engrais verts, ça peut être du bois que vous allez broyer pour réinsérer dans la terre. Donc, il faut que votre jardin il soit aussi autonome au niveau de sa fertilité, qu'il produise votre alimentation et plus encore, la troisième partie qui est destinée aux échanges. Sans production permettant des échanges, vous ne pouvez pas atteindre l'autonomie. Parce que la plus intelligente et scientifique et que sais-je moi, personne qui est bardée de diplômes et qui a accès à toute l'information de l'Internet, elle ne pourra pas s'autosuffire. Ce qui est économique et ce qui est aussi socialement durable, c'est quand on sait tisser des liens aussi avec les autres. Parce que souvent, je prends cette image, mais... Dans une équipe, par exemple, dans une entreprise, le boss, il y a plein de trucs qu'il ne sait pas que sa femme de ménage sait.
Alors, pour terminer, Martine, que conseillez-vous à nos auditeurs qui souhaiteraient être en permaculture? À qui peuvent-ils s'adresser? Proposez-vous des conférences, des stages? Quels livres peuvent-ils lire?
Alors, au niveau des bouquins, il y a deux livres incontournables, très inspirants, en tout cas. Et puis aussi un auteur de livres qui est très cher à mon cœur, qui est Pierre Rabhi. Alors, il écrit plein de bouquins, je ne vais pas en prescrire un en particulier, mais je crois que dans tous ses ouvrages, il est question de permaculture. L'agroécologie humaine et sociale, pour moi, c'est de la permaculture. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Sinon, il faut investir dans l'initiation à la permaculture de Bill Mollison. Et puis aussi, introduction à la permaculture de David Holmgren.
Des conférences, des stages sont possibles ?
Je fais des conférences en fonction des invitations que je reçois. Et puis, prochainement, je vais proposer des formations. Alors, depuis décembre, je suis dans les tailles douces. Donc, la prochaine initiation à la taille douce, elle aura lieu le 30 mars en bord de Saône. Mais le stage est pratiquement complet. Le 14 avril, je propose une initiation aux plantes sauvages comestibles avec l'association Vocation, qui aura lieu sur Tréfort en Revermont, maintenant Val-Revermont. Le 4 mai, j'interviens dans le cadre du Festival des mauvaises herbes, qui est organisé par une association Un Pas de Côté à Céséria. Et là, ça sera aussi une initiation à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles avec dégustation de plats cuisiniers. Et puis, il y aura le 18 mai, à la ferme du Pelou, sur Polia, au hameau de Vial, une formation dédiée aux plantes potagères et à leur manière de les associer, à la manière de les associer au potager. Comment associer les plantes potagères et autres plantes aromatiques et médicinales. Le 1er juin, formation à la haie fruitière diversifiée et aux associations possibles aussi au niveau de la haie, toujours à la ferme du Plou à Polia. Et juin-juillet, taille douce d'été, août, production de semences. Formation à la production de semences, là chez moi, dans le jardin du Carabe.
Comment peut-on vous joindre? Vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone?
Alors j'ai un site internet, martinedelomo.gimdo.com. Vous tapez sur votre moteur de recherche Martine Delomo, agroécologie, carabe. Normalement, vous devriez tomber sur mon site. Il y a une rubrique contact. Vous avez sur cette rubrique contact possibilité de m'envoyer un mail ou de m'appeler au téléphone.
Merci Martine Delomo de nous avoir éclairé sur ce qu'est réellement la permaculture. À bien y réfléchir, la démarche des Gilets jaunes qui revendique entre autres une autre forme de démocratie ne serait-elle pas un peu permacole?
En tout cas, la permaculture, elle pourrait répondre à ces revendications.
Merci à tous et à bientôt.
Merci.